Bonjour, bienvenue sur le podcast Sur la ligne, le podcast champ gauche du Cannes Football Club qui s'intéresse aux deux côtés du football et du soccer, celui des tribunes, des enjeux et celui du terrain. Aujourd'hui, nous irons sur le continent et nous nous intéresserons à la Cannes et à ses dimensions politiques. Dimensions politiques qu'elle a acquises, on le verra. J'ai deux invités, Chérif Guémot, journaliste à SoFoot, et Franck Simon, immense spécialiste du foot africain. Depuis ses 12 ans, enfin, il a commencé à s'intéresser à ses 12 ans, journaliste indépendant, grand reporter et consultant. Salut Chérif.
Salut Alex, salut Franck.
Salut Franck.
Salut Alex, salut Chérif.
Parfait, ben, je vous propose de commencer. On va commencer ben, tout simplement ben, par la dimension politique de la Cannes. Donc, Claude Leroy, le sorcier blanc et fin connaisseur de l'Afrique, disait dans la revue de l'After, le football, c'est le creuset fédérateur, le dominateur commun, et l'amour pour la sélection existe toujours, même chez les expatriés et sur plusieurs générations. Comment est-ce que toi, tu définirais finalement la place de la Cannes et peut-être du football en Afrique, Franck?
La place, elle est immense. C'est une place centrale. C'est le sport par excellence qui coûte le moins cher en fait. Hein. Avoir un ballon qu'on peut fabriquer, jouer sur des terrains vagues, tout le monde joue, toutes les générations, hommes, femmes, enfants, les vieux, tout le monde joue. Donc c'est une place importante. Après, c'est vrai que c'est un sport qui a été plaqué à la base par, les puissances coloniales. C'est elles qui l'ont plaqué sur le continent, mais rapidement, les Africains ont apprivoisé cette balle ronde pour en faire le sport roi. Et aujourd'hui, effectivement, il tient une place vraiment très importante dans le quotidien des gens, des populations des 54 pays africains.
Exact. Chérif, tu as peut-être aussi une vision à nous faire partager ou un avis?
Oh oui, non.
Un autre regard.
Non, mais Franck a raison. C'est le sport roi, le sport universel par excellence. Et il faut pas oublier, en Afrique, c'est la dimension festive. Et quand je dis festive, c'est pas du tout péjoratif. C'est vraiment le ballon qui rassemble, comme l'a dit Franck, les jeunes, les vieux, les grands, les petits. Parce que bon, évidemment, hein, tout le monde est le bienvenu. Et surtout, c'est fédérateur aussi, bah, tout simplement, bah, devant la télé. Parce que faut pas oublier que l'Afrique, quand même, il n'y a pas des télés partout. Donc, moi, je me rappelle juste en Algérie, bah, quand il y a un grand match de la CAN, enfin, de l'équipe d'Algérie, c'est la famille, les amis.
Chérif, tu peux lâcher ton micro, parce que ça fait des interférences, voilà. Dis-moi. Ouais, en Algérie, c'est la famille, et puis on se retrouve.
Oui, non, bah, c'est la fête, tout simplement. Et puis, alors, évidemment, au moment de la CAN, c'est la fête de tout le continent africain, parce que, voilà, chaque pays qui l'organise, du mieux qu'il le peut, parce que c'est pas toujours évident en matière d'infrastructure et de coûts financiers, c'est toujours un plaisir de voir, quand on débarque dans une capitale, tous les drapeaux du continent, enfin, qui vont représenter un peu les représentants de l'excellence du football continental.
Exact. Ben justement, donc la CAN, on va faire peut-être un petit rappel historique. L'histoire commence avec une première édition au Soudan et un vainqueur qui aujourd'hui est le recordman des victoires, l'Égypte. Qui nous fait l'historique, Franck peut-être? Rapide.
L'historique, c'est de dire qu'en fait, à la base, il y a quelques fédérations africaines existantes, notamment l'Égypte, qu'on vient de citer, le Soudan, l'Éthiopie, et puis l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud de l'apartheid, qui se sont réunis à Lisbonne en 56 pour créer la Confédération africaine de football. Le football africain existait avant même que l'instance soit créée, mais derrière ça, après la création à Lisbonne, ils ont décidé de créer un tournoi qui rassemblait donc les quatre fondateurs, les quatre pays. Mais comme l'Afrique du Sud n'avait pas l'intention de proposer une équipe nationale multiraciale, eh bien, elle a été tout simplement exclue. Et donc, le tournoi, finalement, a permis surtout à trois équipes d'évoluer. Alors, c'est vrai que d'un petit tournoi continental, parce que en 57, il y a encore très peu de pays africains qui sont indépendants. Il est devenu aujourd'hui une compétition qui rassemble quasiment la moitié des pays d'Afrique. Ils sont 24 sur la ligne de départ depuis l'édition 2019. longtemps à 8 pays, puis à 12, puis à 12, c'est pas, ça n'a pas été très longtemps. Jusqu'en 90, c'était à 8, jusque l'édition de l'Algérie, remportée par l'Algérie. Ensuite, pendant deux éditions, on a eu 12. Et puis, à partir de 96, l'édition en Afrique du Sud, on est passé à 16, justement. Mais l'édition sud-africaine a ceci de particulier que, au lieu d'être 16, ils étaient 15, puisque le Nigeria a décidé de bouder la compétition, de ne pas défendre le titre remporté en 94. Donc, d'un tournoi comme ça, plutôt ramassé, c'est devenu une super production du football en Afrique. Et moi, souvent, quand j'en parle, que ce soit avec Chérif, sur différentes antennes, je dis toujours que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un peu la Coupe du Monde du continent africain. C'est la vraie Coupe du Monde, jusqu'à présent, en tout cas, parce que je trouve que c'est un tournoi qui s'essouffle, mais on y reviendra sans doute. L'histoire, effectivement, fait que y a de très grandes nations. Certaines phases ont fait qu'elles ont bien commencé, puis elles se sont un peu éteintes. Le Soudan a été longtemps, jusqu'en 70, une superpuissance, avec l'Éthiopie, avec l'Égypte, et puis par la suite, on a vu l'émergence du Ghana, du Nigeria, on a vu le Maroc, on a vu un petit peu la Guinée, le Cameroun, bien sûr, puis la Côte d'Ivoire, puis d'autres pays. Puis en fait, depuis les années 2000, c'est un peu parti dans tous les sens. L'Égypte reste une superpuissance, le Cameroun est une superpuissance, l'Algérie est une superpuissance, mais a mis 29 ans à remporter son deuxième sacre, ce qui est quand même beaucoup, et puis des pays comme la Zambie ont réussi à accrocher, des pays comme le Ghana qui sont des ports d'ancrage importants pour le foot africain, eh bien le Ghana court après depuis 1982. Donc c'est pas si simple que ça d'aller la remporter. Je sais que les amis algériens, à chaque fois, ils disaient « Ouais, on ne l'a pas remporté, c'est pas facile. » Ben oui, effectivement, c'est pas facile. Tu peux avoir une super équipe. Le Sénégal l'a jamais remporté, par exemple.
Absolument.
C'est vrai, mais juste… Chef.
Oui, juste pour aller dans le sens de Franck. Alors, juste quelques points de détail hein, pour l'organisation. Donc, il y a eu évidemment une évolution… quelques étapes assez importantes. Donc, au tout début, c'était simplement les joueurs qui jouaient dans les pays africains qui pouvaient disputer la CAN. Ensuite, on l'a ouvert à ce qu'on appelle les binationaux, puis surtout les joueurs étrangers africains qui jouaient à l'étranger. Ensuite,
ça, c'était déjà le cas dans les années 70. À partir des années 70, tu avais des joueurs venant d'Europe présents dans les équipes. Alors, ils n'étaient pas forcément les plus nombreux, ils faisaient l'effort de venir.
Tout à fait. Donc ensuite, faut pas oublier, dans les étapes importantes, quand on est passé des années impaires, faut pas oublier qu'avant, c'était les années paires, ça posait des problèmes, parce que très souvent, ça tombait au moment de l'Euro ou de la Coupe du Monde. On va revenir sur les interférences avec le reste des compétitions internationales. Et ensuite, évidemment, en 2019, on est passé à une CAN d'été, la CAN estivale, alors qu'avant, c'était plutôt en hiver. Et dernier point, évidemment, le passage à 24 équipes lors de la dernière CAN. Mais sinon, je vais revenir à la CAN des origines. Il faut pas oublier que la CAN est née du sceau de la politique. Parce que évidemment, en 57, quand il y a la première édition, l'essentiel du continent est colonisé. Et justement, l'histoire de la CAN, c'est l'histoire progressive de l'émancipation du continent africain.
C'est-à-dire à travers les compétitions, effectivement.
À travers les compétitions.
Et à mesure que tu as raison, à mesure que les pays, effectivement, s'émancipent et prennent leur indépendance, à partir de 1960, 62, etc., eh bien, ils rejoignent le concert international, la FIFA, la CAF, et puis, naturellement, se mettent à participer à ce tournoi, parce qu'il y a toujours cette grande idée, à l'époque, défendue par Sékou Touré, par Kwame Nkrumah, du panafricanisme.
Absolument. C'est vraiment consubstantiel du football africain, cette dimension politique, parce que ça va être à la fois l'élément fédérateur du continent, par le sport roi, on pouvait pas rêver mieux, et surtout l'affirmation progressive de cette CAN, c'est très important, parce que ça va aussi interférer avec les qualifications de la Coupe du Monde, parce que pendant longtemps, le participant africain de la Coupe du Monde, c'était le vainqueur de la CAN. Alors, C'est un peu ce qui s'est passé fin des années 60. Il y a eu des histoires de boycott, mais on va pas revenir là-dessus parce que c'est long. Mais par exemple, je vais donner un exemple que tout le monde connaît. En 1974, le Zaïre, RDC aujourd'hui, est vainqueur de la CAN en 74 et qualifié directement pour la Coupe du Monde 74. Quatre ans plus tôt, c'était le Maroc. Mais
bon, en 74, directement. Non.
Dis-moi.
Ils sont pas qualifiés directement. Ils sont passés par des éliminatoires quand même, chérif.
Oui, tu as raison.
Oui, il y avait c'est éliminatoires tout à fait différentes.
Alors, c'était quand que le...
Tu as raison que pour l'année 74, eh bien, le Zaïre, qui a été un petit peu accusé d'être un peu poussé dans le dos pour aller à la Coupe du Monde,
ouais,
porté l'édition 74, la fameuse finale rejouée contre, ouais, la Zambie au Caire.
Ouais.
Voilà, c'est vrai que c'était concomitant, en fait. Le fait qu'ils aient dominé à ce moment-là, la scène africaine sur une compétition est présent en Coupe du Monde, mais ce qu'ils ont dominé en Égypte pendant la CAN, on l'a pas retrouvé quelques mois plus tard en Allemagne, malheureusement, puisque
absolument
3 défaites, 14 buts encaissés, 0 marqué, et puis des joueurs jetés dans les oubliettes du temps, et des joueurs violentés, des joueurs qui ont été complètement mis de côté. Donc, mais c'est vrai que t'as raison quelque part, c'est-à-dire que bah normalement, quand tu avais qu'un seul participant ou deux à la Coupe du Monde pour l'Afrique, c'était souvent la meilleure nation en Coupe d'Afrique, quoi. Hein. C'était ou pas loin. Il y avait, c'était concomitant. On y arrivait, quoi.
D'accord.
Ça c'est un peu compliqué.
Justement, c'est intéressant. Hein. Participer à la CAN, c'est être mieux accepté ou être accepté dans le concert des nations africaines. Vous l'avez dit, et c'est aussi ce que m'a dit la Sana Camara dans un précédent podcast, hein, en donnant comme exemple la Mauritanie, son pays. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment aussi vécu en Afrique comme ben, une grande fierté. On a vu maintenant, depuis, il y a de nouveaux pays, il y a même des pays qu'on n'imaginait pas pouvoir se qualifier comme le Comores, qui maintenant ben, sont dans ce grand concert des nations de la CAN. Et donc, c'est vrai que l'Afrique n'en est que plus grande et cette CAN, elle en est que plus représentative. Mais justement, en quoi est-ce que le football, vous en avez déjà un peu parlé, mais est-ce qu'on peut peut-être revenir là-dessus, a été un vrai outil d'émancipation politique?
Je pense que quand Chérif a vraiment bien été bien documenté et nous l'a bien raconté, c'est-à-dire que le pouvoir politique des nations qui ont pris leur indépendance, les différents pouvoirs politiques se sont appuyés en fait aussi sur le football, sur l'équipe nationale qui était un instrument politique, qui était un instrument de soft power, hein, qu'on donnait énormément de moyens à ces équipes nationales pour se préparer, pour bien figurer, quitte à parfois à rapatrier justement les joueurs expatriés. Alors, pour le Zaïre, c'était ceux qui étaient en Belgique, les Belgicains. Pour les Camerounais, c'est les Francamères. Et pour les autres, il y avait toujours cette volonté d'afficher le plus beau visage, de donner le maximum de moyens, y compris d'aller se préparer parfois jusqu'en Amérique du Sud. Enfin, ça paraît un peu incroyable. C'est arrivé, ou alors dans les pays de l'Est, parce qu'il y avait le bloc de l'Est soutenait aussi les nations nouvellement indépendantes. Donc, forcément, pendant toutes ces années du début de l'ère des indépendances. Et après, je vais laisser quand même Chérif s'exprimer sur le sujet. Forcément, ça a été un outil politique de défendre un petit peu comme ça la patrie nouvellement créée. Et donc, ça se retrouve, y compris dans les choix de certains techniciens, puisqu'on allait chercher pour les pays qui faisaient partie qui étaient proches du bloc soviétique, du bloc de l'Est, ben, on allait chercher des sélectionneurs hongrois, tchèques, soviétiques, etc. Donc il y avait cette concomitance aussi.
Oui, non, mais je confirme, je plus sois. Et alors il faut bien expliquer les deux niveaux de participation. Alors déjà tu as raison, Alex, la participation d'abord à la CAN, faut pas oublier, hein, comme l'a dit Franck, c'était pas un plateau à 24 équipes au départ. Donc déjà parvenir au plateau final, c'est une immense fierté d'un point de vue continental, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des nations jeunes, des nations émancipées qui se retrouvent dans la fraternité, mais dans l'élite de la fraternité. Donc, on va encore citer l'exemple, justement, Franck en a un peu parlé, du Ghana de Nkrumah. c'était vraiment la le football faisait partie entre guillemets de son soft power. C'était un moyen de rayonnement de l'État ghanéen et on a il y a carrément eu un style ghanéen, presque un style d'État du Ghana où on mettait en effet les moyens au niveau de la formation des joueurs, des entraîneurs. Il y a vraiment une politique axée sur le sport et le football, et notamment Nkrumah, à la fois qui est un grand leader du panafricanisme africain et un grand leader du tiers-monde à travers la planète. Donc, on a cet exemple-là. Jusqu'à aujourd'hui, récemment, on va prendre des petits pays, enfin des petits pays comme Madagascar ou le Cap-Vert. Vous vous imaginez pas la fierté immense que pour son ce que de pour ce sont ces petits pays de participer à la grande CAN, la grande fête, la grande fraternité africaine. Donc, évidemment, pour le Cameroun, Côte d'Ivoire, Algérie, Maroc, Nigeria, Ghana, Égypte, il n'y a pas de problème en général là. Ceci dit, attention, même ces grands pays, des fois, ils ont été éliminés. Alors, inversement, quand un grand pays de foot ne va pas à la CAN, c'était le cas avant, moins maintenant, parce qu'il y a maintenant, il y a 24 équipes, mais c'était un drame national.
Alors, ouais, et puis ça peut créer de grosses tensions dans un pays.
Hein. Et voilà. Donc, l'importance de la politique, le rayonnement à la fois continental, qui est très important. On est un continent jeune, on est un continent nouvellement émancipé. Il y a un grand élan messianique qui fait que, comme on appartient au tiers-monde, on va faire partie des pays phares de l'humanité. C'est comme ça que ça a été vécu, d'où le panafricanisme, le panarabisme. Enfin, voilà, et le football est le vecteur de pas mal de ces espoirs et de la façon de se projeter et de rayonner à travers le monde.
Alors, si je peux compléter ton propos.
Vas-y, Franck.
Il y a un exemple qui me venait pendant que tu évoquais le Ghana, qui est l'exemple de la Guinée de Sékou Touré. Sékou Touré. Alors lui, il s'est totalement servi. En fait, toute sa politique était au service du panafricanisme et surtout pour glorifier ce sentiment d'appartenance à la Guinée. Tout était créé. Il a créé des structures qui sont typiquement guinéenne, les clubs qui ont été créés comme le Afia Conakry qui a un petit peu dominé la scène africaine à la fin des années 60, début des années 70, c'était tout simplement le reflet de sa politique. Enfin, ils étaient membres d'un parti. L'équipe nationale c'était comme si c'était une cellule du parti en fait de Sékou Touré. Ils étaient tous comme ça je dirais non pas à la solde mais qu'ici ils étaient là pour défendre une idée très très forte, celle de l'idée de la Guinée qui va dominer, l'idée de la Guinée qui a accueilli aussi pas Black Consciousness, mais qui a accueilli
des Black Panthers peut-être.
Black Panthers, voilà, qui sont venus.
Comme l'Algérie.
Voilà, comme l'Algérie, c'était un pays extrêmement important. Tu as raison par rapport au tiers monde et par rapport au continent africain. Il était hors de question pour Ahmed Sékou Touré que son pays ne brille pas sur la scène sportive et notamment footballistique à travers la CAN, parce que les deux grands rendez-vous à ce moment-là, bien entendu, ce sont les Jeux Olympiques. Parce que ça permet aussi à ces générations de s'émanciper et de briller. Souvenons-nous des athlètes éthiopiens. Alors eux, pour le coup, il n'y a pas eu, on va dire, de puissance coloniale véritablement. Ils étaient indépendants depuis longtemps, mais ça a permis de faire rayonner les drapeaux africains. Et puis la Coupe d'Afrique des Nations, donc la Guinée, le Ghana, un petit peu le Nigeria, l'Algérie, je pense un peu moins, mais l'Algérie l'avait faite dans sa démarche dans la guerre d'indépendance à travers du FLN. Ça, en fait, eux, ils ont su vraiment bien le faire parce qu'ils ont porté, ils ont exporté un mode de jeu déjà, un mode de jeu, un fonctionnement.
Absolument.
Enfin, je veux dire, c'est unique dans l'histoire du football mondial ce qui s'est passé avec l'Algérie de l'équipe du FLN et on doit la mettre un petit peu de côté parce que après, ça s'est pas forcément répercuté, Shérif, malheureusement.
Bien sûr.
Pas si long. Mais en revanche, pendant les quelques années de la guerre d'indépendance, eh bien, on a eu ce style algérien. Ils étaient tous sur le même fonctionnement. Et je pense que ça a donné des idées. Ça a dû nourrir pas mal l'imaginaire des autres pays du tiers-monde, des nations d'Afrique, d'Europe de l'Est qui les rencontraient. Et puis, sans doute, inspirer certaines nations africaines en se disant, l'Algérie, ça joue bien. On devrait peut-être un peu s'inspirer de ce modèle-là. Et voilà aussi une partie de l'histoire du début de la CAN, en fait.
Alors, Alors, je voudrais juste rajouter un mot, mais parce que pour faire le, pour enjamber notre période actuelle, d'où la périodicité très rapprochée de la CAN. Une fois de plus, on est un continent jeune et indépendant, donc on va se revoir. Je dirais pas le plus rapidement possible parce que ça s'est pas fait dans cet esprit-là. Par contre, c'était une compétition qui était tous les deux ans pour bien marquer collectivement un élan nouveau d'un continent nouvellement indépendant. Et si possible, on va mettre une périodicité courte. C'est pour ça que le rythme bisannuel a rythmé un peu l'histoire du continent africain à travers la CAN. Et à la base, c'était une très bonne idée de jouer tous les deux ans pour se retrouver ensemble, les pays nouvellement libres et indépendants. Donc, il y a cet esprit-là.
Pour progresser aussi, tu as raison.
Et pour progresser,
il fallait
de la diversité. Débat. Ouais. Et aujourd'hui, justement, alors il fallait. Alors aujourd'hui, finalement, lançons le débat. On reviendra à ce qu'on a commencé tout à l'heure. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes favorable à une CAN tous les deux ans ou tous les quatre ans?
Alors moi, je vais répondre tout de suite. Hein. Je te grille la politique, parce que je sais qu'on n'est pas tellement d'accord. Mais c'est très bien, c'est très bien. Moi, personnellement, toujours dans cet esprit d'unification de l'Afrique, continent jeune. Continent qui se voit aussi comment dire, qui s'impose aussi des dates butoirs, des projets d'infrastructures et d'organisation. Je suis pour le maintien du rythme bisannuel, à la fois parce que c'est une façon de multiplier les possibilités d'organiser la CAN et de forcer un peu les États à s'organiser, mettre en place les infrastructures. Deuxièmement, pour maintenir l'esprit de fraternité et de fête, parce que, je le rappelle, c'est originellement aussi ça qui a gouverné l'esprit de la CAN. Et deuxièmement, je pense, sur la foi de ce qui s'est passé lors de la dernière CAN en 2019, même si je pense que 24 équipes, c'est peut-être un peu trop, je sens renaître, c'est une impression, je sens renaître comme une appétence, un goût retrouvé pour la CAN, et il suffit de voir, je pense que ça a été un succès à la télé, ça a été un grand succès en France, j'ai été étonné de voir, tu vois, et n'oubliez pas, et ça c'est très très important, la jeunesse, avec l'organisation, notamment en France, de la CAN des quartiers. C'est un truc qu'on connaissait déjà un peu avant, c'est pas nouveau, hein, quand on dit oui c'est nouveau la CAN, non, la CAN des quartiers, comment on s'appelle, nous on est le Sénégal, nous on est l'Algérie, nous on est le Marocain, et ça a eu un succès phénoménal. Alors le nouveau truc, c'est que aussi on a vu avec toutes les stars, parce qu'il y a de plus en plus de stars du football africain qui jouent dans les grands clubs européens, qui remettent un peu au goût du jour cette CAN. Alors je dis pas, je défends pas l'idée éternelle qu'il faut rester tous les deux ans. Je suis pas obtus. Bon après, si un jour on doit passer à un rythme quadriennal, pourquoi pas. Mais pour l'instant, au niveau de l'esprit originel, au niveau du regain d'intérêt, au niveau aussi de la compétition, parce qu'on s'affronte, il y a de plus en plus de bonnes équipes africaines, ça maintient aussi une certaine compétitivité des nations africaines entre elles, je suis pour le maintien du rythme bisannuel. Voilà, pour toutes ces raisons-là. Allez, Franck.
Moi, j'ai bien entendu tes arguments, ils sont recevables. Simplement, j'ai eu le sentiment depuis à peu près une petite dizaine d'années qu'il y a eu un essoufflement au niveau du rythme, de l'intensité, de la qualité des matchs dans la finale de la Coupe d'Afrique.
Je t'approuve.
Voilà, si bien que quand en 2017 j'avais été invité par la Confédération africaine au séminaire de Srirat au Maroc, il se trouve que j'avais fait partie du groupe de réflexion sur le devenir de la compétition. Est-ce qu'il fallait passer à un rythme quadriennal? Est-ce qu'il fallait augmenter encore le nombre de participants à la phase finale? Dans le même groupe que moi, il y avait des sélectionneurs et des présidents de fédération. Autant dire que quand j'ai évoqué cette possibilité, parce que c'était une idée, je ne suis pas décideur, hein, j'ai évoqué le fait de passer à jouer tous les quatre ans, parce que je trouve que la CAN a perdu de sa saveur dans les matchs et que on s'ennuie, pour pas dire autre chose, lors du premier. Voilà. Il y a eu une levée de bouclier des dirigeants africains, parce que pour eux, la compétition reste la poule aux œufs d'or. Eux, ils n'ont absolument aucun intérêt à ce que la compétition se joue tous les quatre ans. Ils n'en ont rien à faire. Ils veulent que cette compétition se joue tous les deux ans parce que c'est aussi l'assurance d'une manne et financière à l'intérieur du pays et à travers la participation. Et d'autre part, une CAN à 24, évidemment que je suis d'accord, ça permet à des nations un petit peu nouvelles dans le concert d'apparaître. Alors, on a eu Madagascar, on a eu la Mauritanie en 2019. Dans quelques semaines, au Cameroun, on aura la Gambie et les Comores. Évidemment, je suis heureux parce que ce sont des nations qui ont beaucoup progressé, sauf que même en ramassant le niveau, en ayant conservé le niveau de participants, je suis persuadé qu'elles auraient fini par y être. Dans une CAN un peu plus ramassée, une CAN un petit peu plus élitiste, parce qu'ils ont vraiment bien travaillé. Voilà. Donc, tout simplement, c'est pas vouloir revenir non plus à une CAN à 8, mais je trouvais qu'à 16, ça tournait relativement bien. Il y avait toujours des matchs un peu moins intéressants. Et là, à 24, je trouve que c'est plus haut, c'est plus long. Et du coup, il y a un premier tour, à part quelques matchs, parce que vous avez toujours au moins une ou deux grosses nations par groupe, mais c'est les premiers tours où ça, je trouve, ça ronronne. Donc, en fait, ça devient vraiment intéressant qu'à partir des huitièmes de finale, les matchs couperaient, et encore, parce que parfois, vous tombez sur des équipes qui garent deux autobus devant leur but, et voilà. Je le regrette, hein, parce que j'aime quand il y a du spectacle aussi, mais voilà, c'est aussi cette raison-là. J'ai rien contre l'aspect festif, etc. Au contraire, évidemment, c'est quelque chose d'important, même si, Chérif, et là tu ne pourras pas me contredire, mm-hmm. lors de la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on aperçoit les plus grandes foules dans les stades. Il suffit que le pays organisateur soit éliminé rapidement pour que tu te retrouves avec des enceintes vides, y compris quand on laisse les portes ouvertes. Hein. Mm-hmm. J'ai assisté à ces scènes-là avec beaucoup de tristesse à une dizaine de fois. Voilà. Ouais. Donc, une fois le pays organisateur éliminé, elle perd de sa saveur vis-à-vis des gens sur place. Il y a une désertion des stades. C'est pour ça que là, on se dit qu'elle va avoir lieu au Cameroun. C'est l'assurance d'avoir du public parce que le Camerounais aime le football. Alors, il aime les Lions indomptables, mais ça ne le dérangera pas d'aller voir d'autres nations évoluer, quoi. Et ça, c'est aussi un gage de succès un petit peu populaire. Même s'ils sont pas les rentrées au guichet qui vont remplir les poches des organisateurs. Hein. C'est quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même mieux d'avoir des tribunes pleines ou à demi pleines que des stades qui sonnent creux, quoi. Donc voilà, plutôt quadriennal, mais peut-être que Chérif a raison, peut-être que la prochaine Coupe d'Afrique arrive et les suivantes vont redonner un peu d'éclat au tournoi. Je le souhaite. Même si je n'en suis vraiment pas convaincu, et on le voit d'ailleurs dans les phases éliminatoires du monde, zone Afrique et éliminatoires de Coupe d'Afrique. Franchement, c'est pas choucard et souvent attendre les matchs couperets, les matchs décisifs pour que ça bouge un peu.
Ça s'enlève, ouais.
Exactement. Ouais, parce que souvent il y a beaucoup de calculs. Mmh. Voilà.
Mais le débat était intéressant et je crois que vous l'avez bien mené. Ouais. Moi, je voulais revenir peut-être à la souveraineté. David Kafak, qui est un de vos confrères aussi spécialiste du football africain et qui travaille pour RFI, me disait que la CAN c'était aussi un outil de souveraineté territoriale et que parfois il y avait des matchs qui étaient organisés dans des zones de conflit, Kano en 2000, Kamina en 2010, Yimbé en 2021, et que justement par ces décisions, les États voulaient y afficher leur souveraineté. Et c'est vrai que ça, c'est aussi une question qui peut être intéressante. Mais on passera peut-être finalement aux différentes. Il y a une espèce quand même. On a toujours l'impression qu'il y a une main noire sur la CAN. Il y a une main noire sur la CAF. On peut peut-être commencer finalement par l'influence des politiques locaux. Alors, on sait que souvent, enfin, ça arrive très régulièrement que des fédérations soient suspendues parce que là, pour intervention abusive du gouvernement, des chefs d'État. D'ailleurs, moi, je trouve que si on prenait les mêmes règles en Europe, il y aurait aussi des sanctions. Je trouve que là, il y a vraiment le marteau est plus sévère d'un côté que de l'autre.
Comment deux mesures.
Oui, voilà, deux, c'est exactement le mot que j'ai cherché. Merci, Franck. Donc, comment est-ce que vous voyez ça et justement. Le roi, il expliquait aussi que les victoires footballistiques ne faisaient pas les victoires politiques, mais ils participaient. Chérif, cette main des gouvernements.
La main du gouvernement sur quoi? Sur les politiques intérieures ou sur
Oui, à la fois sur les politiques intérieures et puis sur les aussi sur le choix du pays. Enfin, c'est vrai que
Oh là là, le choix du pays. Bah déjà, ça appartient à la CAF, souvent avec des tractations plus ou moins opaques.
Et des interventions de le président de la CAF. Hein, on dit toujours qu'il a une influence qui est plus que majeure.
Oui, et puis après il y a des régions d'Afrique, il y a des rivalités régionales au niveau de l'Afrique et tout. Et puis après il y a évidemment la question de la possibilité pour un pays au niveau des ressources et des infrastructures de pouvoir ou ne pas pouvoir organiser la Coupe d'Afrique. C'est vrai qu'il y a aussi un aspect chaotique dans l'histoire de la CAN. Il y a cet aspect chaotique. Des pays qui sont nommés, qui sont choisis et qui ensuite se rétractent pour motifs politiques, pour motifs sanitaires et puis hélas aussi des fois pour motifs de guerre tout simplement ou de conflits des conflits internes. Bon, on l'a vu en Angola avec l'enclave de Cabinda, malheureusement avec le drame en 2010 de l'équipe du Togo. Ça fait aussi partie de la CAN. Il y a cet aspect, disons-le, chaotique. Et je parle même pas de l'organisation. Je parle simplement du déroulement de la récupération, de l'instrumentalisation de l'événement sportif, évidemment, pour un gouvernement avec, si possible, un bon parcours de l'équipe hôte. Ça fait partie aussi, ouais, de l'histoire de la CAN. C'est à côté pas très très glorieux, il faut le reconnaître.
Franck.
Eh bien évidemment, quand un pays se porte candidat à la Coupe d'Afrique des Nations, à l'organisation, il faut le feu vert du chef de l'État. Et surtout, encore plus aujourd'hui, avec les ressources qui sont demandées, un certain nombre de stades, il y a plus de pays participants, donc il faut encore plus de stades. Le cahier des charges est encore plus compliqué à respecter. On le voit bien avec ce qui s'est passé du côté du Cameroun ces dernières années. Parce que eux, ils avaient signé pour une CAN à 16 et du coup, on leur impose une CAN à 24.
Enfin, c'est pas la même chose.
Voilà. Donc, c'est pas ça. Mais enfin, c'est souvent la décision, effectivement, du pouvoir politique qui a envie, à un moment donné, de dire on est en capacité d'organiser le plus grand événement africain, plus grand événement possible en Afrique, hors Jeux Olympiques. Et du coup, ça passe par le décaissement de sommes extrêmement importantes, parce que nous on parle que de football et de stade, mais il y a le secteur de la santé hospitalier, les routes, il y a tout le secteur technologique aujourd'hui avec le wifi, il faut avoir du wifi de partout, etc. Le secteur hôtelier aussi qu'il faut mettre en capacité de recevoir des centaines ou des milliers de visiteurs. Donc c'est à la fois un élément politique important, un élément politique, un élément économique. Donc il y a un certain nombre de nations qui se sont lancées dedans, mais quand la CAN était peut-être plus petite et c'était compliqué, mais moins. Aujourd'hui, à 24, en vérité, il y a de moins en moins de pays qui vont être en capacité de le faire, et peut-être qu'il faudra songer à d'autres co-organisations sur le plan régional, associer plusieurs pays ensemble pour faire en sorte que ça soit moins lourd. Mais enfin, ça reste quand même, évidemment, une manière pour un gouvernement de briller aussi, hein, aux yeux des autres, et puis en politique intérieure, aux une opposition qui peut être critique et dire voilà, on a su bien organiser, vous avez vu, on a fait les choses bien, on est dans une période sur le plan sanitaire très compliqué, vous avez vu, on est en capacité justement de tester tout le monde à tout moment. Voilà.
Le gouvernement travaille bien, les pays fonctionnent.
Ouais, non, mais n'oublions pas quelque chose. Le Cameroun organise en janvier, à partir du 9 janvier, la CAN, mais un an avant, il a organisé avec grand succès le. Ça s'est bien passé. Les stades étaient somptueux, les gazons étaient bons. Sur le plan sanitaire, tout a été fait justement pour qu'il y ait le moins de soucis possible. Toutes les équipes étaient dans des bulles sur le plan sanitaire. De l'avis des observateurs, ça s'est très bien passé. Ça a été une excellente répétition pour les sites qu'on va retrouver, tous les sites qu'on va retrouver pour la grande Coupe d'Afrique des Nations. Donc, voilà, eux, ils y ont mis les moyens, ils s'y sont pris en avance, ils étaient en retard, très en retard, et puis finalement, ils ont fini par combler ce retard et faire en sorte que, eh bien, la décision politique soit respectée, parce que c'est ça. Hein. Il y avait beaucoup, vous savez, la situation au Cameroun, qui est quand même assez tendue, et du coup, dans l'opposition, ça grogne en disant on dépense, on a dépassé le budget, pourquoi finalement? Et à l'arrivée, la CAN aura bien lieu.
Exactement, elle aura bien lieu.
Elle sera de bonne facture, etc., etc. Donc, ce n'est jamais simple pour le gouvernement qui se lance.
Mais ils y arrivent oui, avec oui. leurs moyens, leurs méthodes.
Oui, mais pour revenir à ta question tout à l'heure, puisque tu évoquais le fait que ça ait eu lieu parfois, et que les gouvernants voulaient qu'en fait, l'intégralité géographique du pays soit représentée. Nigeria, en 2000, mais c'était la CAN Ghana Nigeria, d'où Cabinda en 2010, etc., etc. Mais c'est légitime, c'est logique. Ça paraît totalement logique. Dire que nous sommes.
Le Brésil a fait la même chose pour la Coupe du Monde. Ils ont mis des stades dans des endroits qui étaient isolés de tout, juste, pour réaffirmer la grandeur du pays et la montrer.
C'est tout simplement ça. Voilà.
Il y a une autre main invisible sur la CAN, c'est la main de l'Occident, des Européens. On peut évidemment parler des clubs qui laissent leurs joueurs partir avec plus ou moins avec plus ou moins de bonne volonté. Parfois, ils ne les laissent pas partir. Parfois, ils les font porter pâle. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus. Moi, j'ai eu la liste dernièrement de tous les joueurs qui pouvaient potentiellement partir à la CAN et qui joue actuellement en première ligue. C'est une liste qui est vraiment très impressionnante parce qu'il y en a beaucoup, parce que presque tous les clubs sont touchés, parce que souvent c'est des éléments clés de l'équipe. Alors justement, comment est-ce que vous voyez cette main invisible des clubs et comment des clubs puis aussi de l'Occident? Est-ce qu'elle est aussi importante que ce qu'on veut dire et en quoi elle consiste vraiment?
Alors, je vais commencer à répondre. Alors, avant de parler des sélections et des clubs, des sélections africaines et des clubs européens, on va d'abord parler des joueurs. Globalement, les joueurs veulent représenter l'Afrique. Donc là-dessus, il faut être très clair dessus.
C'est incontestable.
Ils veulent disputer la CAN. Même, je dirais, pour les binationaux, c'est-à-dire ceux qui sont nés sur le continent européen, le fait de pouvoir. Alors, évidemment, on n'est pas naïf. Il y a de l'opportunisme. On est d'accord. Mais globalement. Représenter le pays qu'on a choisi et c'est vraiment un immense honneur. Mais une fois de plus, on n'est pas naïf par rapport à certains cas d'opportunisme. Donc ces joueurs-là veulent rejoindre leur sélection et le problème, c'est que évidemment les clubs européens, surtout, on va parler tout de suite du cas qui nous intéresse, c'est l'Angleterre, parce que évidemment eux, il y a le Boxing Day, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de trêve, ou alors elle est très 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 minime. Donc ils ont besoin de joueurs africains à leur disposition. Mon état d'esprit, et là j'en reviens toujours à l'esprit originel de la CAN, qui est à la fois, comment ça s'appelle, le grand événement fédérateur, unificateur d'un continent jeune et émancipé. On parle souvent dans l'esprit de la FIFA, de l'esprit de solidarité, de l'esprit de progrès commun. Et comment dire, au bout d'un moment, cette solidarité, il faut la manifester. On la manifeste comment? Non pas forcément en allouant de l'argent, des subventions au football africain, aux fédérations de clubs. Et à la limite, pourquoi pas? Parce que c'est quand même un club, un continent qui est sous-équipé. Mais en matière de solidarité, ça commencerait déjà par laisser partir les joueurs. Alors, je prends en compte l'intérêt des clubs. Donc, une fois de plus, au nom d'un continent qui est jeune et émancipé, qui a encore besoin de la CAN, pour les pays organisateurs, pour montrer qu'ils existent, pour aussi la manne que ça rapporte pour la CAF et les fédérations organisatrices, je pense que l'effort de solidarité commande qu'il faille laisser partir les joueurs, ne pas mettre des pressions, parce qu'on leur met des pressions terribles. Évidemment, tu pars, quand tu reviendras, t'es pas sûr de gagner ta place. On va parler aussi un peu des chantages qui sont exercés. Alors, heureusement, je pense que tout tient à la personnalité des joueurs. Et je pense que quand on a des grands joueurs comme Yaya Touré, Drogba et
Mané, Salah, exactement.
Voilà, tous ces joueurs. À partir du moment où ils veulent continuer à représenter leur pays, alors là, après, ça a changé parce que maintenant, on joue en été. Déjà, on a fait un pas parce que c'est des années impaires. Maintenant, la CAN, elle est estivale. Je pense que l'Afrique a fait un pas aussi vers l'Europe. C'est un peu moins radical. Mais je pense que encore pendant un certain temps, il fallait aider le football africain en laissant partir les internationaux. C'est mon point de vue.
Évidemment. Franck, peut-être rapidement ou on peut passer à la prochaine question?
Non, moi je suis totalement dégoûté par l'attitude des clubs anglais en fait vis-à-vis des Africains, totalement révolté par ce tact d'empêcher Sadio Mané et Mohamed Salah par exemple, pour les plus connus d'entre eux, d'être auprès de leur équipe nationale. Il y a des règlements internationaux. La compétition c'est 14 jours. Et ils sont là à chouiner et à embêter les fédérations et à réclamer que ces joueurs soient là pour jouer deux matchs le 26 décembre. Puisque
ils arrivent plus tard ou partent.
Voilà. Donc, en gros, en fait, ces joueurs-là, ils n'ont pas le droit d'être avec leur pays, leur équipe nationale, comme les autres. Quoi. Tout ça parce qu'il y a ce diktat de la Première Ligue anglaise qui nous fatigue, qui nous épuise. Et je ne serai jamais, jamais en faveur de ce type de diktat. Dieu sait que j'aime bien le football anglais, mais ça, c'est systématique. Tous les deux ans, on a les mêmes problèmes. On a le même chantage exercé envers les joueurs, mais il y a des joueurs dans certains championnats autres qu'Angleterre qui ont pris le risque de partir, effectivement, qui sont venus, et puis qu'on a voulu punir, on les a mis sur le banc, puis à un moment donné, on s'est dit, bah ouais, mais enfin, on veut les punir, mais enfin, ils sont tellement bons qu'il faut les réintégrer, quoi, aussi, hein. Les joueurs sont partis parce qu'effectivement, ils aiment leur pays et qu'ils ont envie d'aller gagner quelque chose pour leur pays, surtout si c'est une grande nation, quoi, voilà. Évidemment, le Soudan, ils sont pas embêtés, hein. Le Soudan, ils ont deux joueurs à l'extérieur du pays, c'est pas eux que ça va perturber. Ou le Malawi, ou le Zimbabwe, vous voyez ce que je veux dire. Mais en revanche, il y a des nations qui s'appuient sur essentiellement des expatriés, et c'est sur eux que ça pèse, ou surtout quand vous avez beaucoup de joueurs qui sont en Angleterre. Donc
oui, mais l'Afrique mérite de voir ses enfants.
L'Afrique mérite d'être respectée, tout simplement.
D'être respectée, tu as bien raison.
Voilà, que ce soit les Européens ou les autres.
Franck, oui, shérif. Tu as remarqué que on est beaucoup plus indulgent avec les joueurs sud-américains quand ils vont jouer des éliminatoires, des Copa América, voire des matchs amicaux sur le continent,
revenir
aux États-Unis, dans les pays arabes, Argentine-Brésil, en plein milieu de la semaine, au Qatar.
Ça gêne personne. Ouais. Et c'est le principe du fort avec les faibles. Voilà. Et je trouve ça totalement anormal. Et quelque part, ça dit quelque chose aussi. Peut-être que Shérif me rejoindra, ça dit quelque chose de la faiblesse des dirigeants du football africain.
Évidemment.
Et j'aimerais bien aussi que les joueurs prennent la parole et gueulent et disent, voilà, fichez-nous la paix, laissez-nous faire.
Globalement, Franck, les joueurs ont été bons. Hein. C'est pour ça tout à l'heure que je te parlais de Yaya Touré, Drogba.
Ils ont posé des jalons, exactement.
C'est pas Africa United, shérif, tu vois. Il y a pas une bannière unique. C'est entre guillemets les grandes voix, les grandes gueules. Parce que évidemment, Drogba, quand il ouvrait sa bouche ou Yaya, on allait les écouter.
Tu vois.
Il y a des joueurs qui sont importants pour leur pays, mais qui sont peut-être moins des vedettes ailleurs. Et pour cela, c'est plus compliqué. C'est pour
bien ça. Sûr.
C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un front commun des joueurs, puisque leurs dirigeants sont faibles. Mais c'était à eux de parler et de défendre leur beefsteak et leur compétition. Et je trouve qu'ils ne l'ont pas fait. C'est pour ça que tout ce qui est en train de se passer actuellement dans le football africain ne me surprend pas, parce que les joueurs, ils s'occupent pour l'instant de leur carrière, pour ceux qui sont en Europe et ailleurs. Et puis les dirigeants, bah eux, finalement, ils ne défendent même plus leur propre compétition. Et on voit ce qui va peut-être arriver à la Coupe d'Afrique des Nations si la Coupe du Monde passe tous les deux ans.
Évidemment.
Ça peut se produire, hein. Attention.
Eh ouais, c'est vrai. Moi, je voudrais passer à un autre sujet. On a beaucoup parlé des joueurs, on peut parler maintenant des sélectionneurs. Il y a une autre influence, tout à l'heure, on en avait parlé, c'est les entraîneurs européens, donc ce qu'on appelle les sorciers blancs, et leurs appuis en Europe.
Ouh, la vilaine appellation.
Oui, hein, c'est horrible.
Pas ça. Ah, non, tu n'aimes pas ça. Oh là là.
Oui, mais non, mais c'est le nom qui a été donné. Je suis d'accord, c'est absolument affreux. Mais bon. Et leurs appuis européens, c'est vrai qu'on dit aussi que, par exemple, la Fédération française a ce talent de pouvoir placer les entraîneurs qui ne trouvent pas de poste en Afrique. Et moi, j'ai aussi un avis, alors j'aimerais bien que vous le soumettre. Je considère que pendant longtemps, le fait que les sélectionneurs soient européens, ça a amené un nombre trop important de binationaux dans les sélections, puisque ces sélectionneurs, souvent, ils venaient rarement en Afrique, ils avaient une vision déformée du football africain, et ils se disaient que c'était quand même beaucoup plus rassurant d'avoir un joueur formé à Auxerre, à Paris, ou je ne sais où, à Nice, qui était, d'après leur avis, avait une meilleure formation, pardon, une rigueur tactique supérieure. Est-ce que vous croyez que ça a existé? Et est-ce que vous croyez pas qu'il y a...
Vas-y, Franck, vas-y. Alors, réponds premier, vas-y, Franck.
Non, pour moi, c'est plutôt l'inverse.
Ah.
C'est plutôt l'inverse, parce que au moment, tout à l'heure, Chérif a bien expliqué la naissance de la compétition et après l'ère des indépendances, les sélectionneurs qui venaient, les entraîneurs qui venaient, ils s'installaient durablement dans le pays et formaient,
à l'époque,
formaient les techniciens. D'abord, il y avait très peu de joueurs expatriés. Le concept de binational n'existait même pas. C'est un concept très récent avec, les flux de population et du coup, toutes les équipes nationales reposaient sur des joueurs qui étaient nés dans leur propre pays, mais qui peut-être à un moment donné étaient partis effectivement chercher un contrat ailleurs. Et ça a évolué effectivement avec les enfants, par exemple, de ces joueurs qui avaient la possibilité de jouer pour le pays, peut-être le pays de la maman, plutôt que pour le pays du père. Mais pour moi, en fait, les longtemps, et même Claude Leroy a été sur cette ligne-là. Lui, il a toujours vécu dans le pays qui entraînait. Alors, il avait des résultats, il en avait. C'est une autre histoire.
Un autre débat, ouais.
Voilà, mais des techniciens comme Hervé Renard, tout récemment, il vivait sur place. Philippe Roussier a toujours vécu en Afrique, dans les pays où il a travaillé. Patrice Neveu, idem. Alain Giresse,
Cola.
Idem. Guernot Rohr, idem, jusqu'à temps qu'il prenne le Nigeria. Donc, le concept de binational, il est venu, c'est très 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 récent, le concept de binational, et qu'à un moment donné, effectivement, puisque il y a cette possibilité sur le plan humain d'aller, pourquoi pas, essayer de convaincre des joueurs, mais les fédérations et les sélections ont eu tout à fait raison d'essayer de récupérer ces joueurs. Faut pas oublier un truc, pendant des années, l'équipe de France, elle était composée de joueurs d'origine africaine. Et l'Afrique n'avait pas le droit au chapitre. À un moment donné, ils ont dit d'accord, on a nos jeunes qui sont formés ici en France. Il se trouve qu'il y a eu des règlements qui ont été passés, notamment avec le soutien d'un ancien président de la Fédé algérienne et qui bénéficie au football africain. Tant mieux. Pourquoi pas à leur tour aller chercher des joueurs qui ont joué en U17 ou U20 pour la France ou ailleurs, mais qui savaient qu'ils n'allaient même pas avoir leur chance en équipe de France A. Moi, honnêtement, ça me choque pas. C'est juste, si vous voulez, c'est un retour de bâton, et je trouve ça même très amusant, quoi, finalement. Les Togolais, les Ivoiriens, les Sénégalais, tout ça, qui ont décidé de jouer pour le pays qui est aussi leur pays d'origine, quelque part, qui est le pays du papa ou de la maman. Pourquoi pas? Pourquoi?
Tout à fait.
Voilà. Donc, vas-y, je te laisse.
Revenons sur les fameux sorciers blancs, entre guillemets. Alors, vas-y, et puis je t'emboîterai le pas après.
Ouais, sorcier blanc,
c'est
venu Philippe Roussier, parce qu'il aimait bien parler de lui comme ça, quand il arrivait en Côte d'Ivoire en fin 89, début 90. Il était invaincu pendant quand même quasiment 4 ans,
Non, mais pour la tendance générale d'aller chercher des techniciens hors d'Afrique.
Ouais. Voilà.
Ouais. Moi, aujourd'hui.
Parce qu'aujourd'hui, il y a de la compétence en Afrique.
Il y a de la compétence. Les gars qui ont travaillé en Europe, qui ont passé leur diplôme, sont en capacité à un moment donné de diriger une sélection dans leur pays, jeune ou une équipe A, ou dans un autre pays africain. Les marchés sont ouverts. Mais aujourd'hui encore, ce sont aussi les dirigeants, sont aussi les dirigeants qui continuent de se tourner vers des filières occidentales, sud-américaines.
Mais ils sont frileux, ils sont. Pourquoi c'est plus compliqué de prendre, un entraîneur local que de prendre cet entraîneur qui a déjà fait le tour de l'Afrique avec plus ou moins de réussite.
Chérif, je te laisse.
Historiquement, comme Franck l'a rappelé, l'Afrique, continent émancipé, était très très lié entre guillemets avec le camp socialiste. Donc pendant à peu près 2-3 décennies, on a eu beaucoup de techniciens qui venaient de
Yougoslavie,
ouais. Voilà, des pays de l'Est, ouais.
Soviétiques, allemands de l'Est, etc.
Absolument. Ouais. Et ça a duré jusque dans les années 80 quand même. Hein. Et
alors, même un petit peu au-delà.
Tu as raison.
Ça a basculé avec la chute du mur de Berlin.
Tu as raison. Et parallèlement à ça, et dans les années qui ont suivi, on a vu s'installer la fameuse filière française, pour le meilleur et pour le pire, à mon sens. Mais quand même, globalement, avec des gens compétents qui aiment le continent, et comme le dit Franck, qui se sont installés dans les pays, Claude Leroy, par exemple. Donc, faut pas tout voir d'un mauvais œil. Et toujours parallèlement à ça, on a eu des grands techniciens. Alors, je vais en citer un très rapidement. C'est évidemment Cheata, le sélectionneur de l'équipe d'Égypte, qui a gagné 3 CAN d'affilée, 2006, 2008, 2010, qui a prouvé évidemment toute sa compétence avec une équipe merveilleusement bien organisée qui malheureusement n'a pas pu jouer à la Coupe du Monde. Ça, c'est le drame. Et puis plus récemment, on a eu des grands sélectionneurs. Après, bon, il y a la frilosité des dirigeants africains. Je pense que pendant un temps, vis-à-vis des hiatus ethniques, on a peut-être aussi s'est tourné vers l'étranger pour en sorte
pour ne pas avoir à choisir entre
neutralité, vaut mieux prendre un étranger plutôt que tel entraîneur qui serait plutôt marqué ethniquement. C'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui que maintenant que les pays se sont tous affirmés d'un point de vue géographique au niveau de leurs frontières et au niveau de l'homogénéité culturelle, linguistique. Mais je pense qu'il y a un moment, c'était aussi un peu la solution de facilité. On va prendre un étranger pour garantir une certaine neutralité. Et aujourd'hui, je pense qu'avec certains sélectionneurs, le sélectionneur sénégalais, aide-moi Franck.
Aliou Cissé.
Voilà, et Belmadi, c'est la dernière finale de la CAN. Alors évidemment, ils ont joué en France et tout, ok, d'accord. Mais
Mais c'est un pas dans le bon sens.
Non, ça va dans le bon sens, absolument.
Oui, c'est un pas, oui.
Oui, donc et surtout, ils démontrent que
ça fonctionne et que ça fait gagner.
Ça fait gagner absolument, oui.
Et ça fonctionne, et on va prendre un exemple beaucoup moins connu, un pays beaucoup moins coté, qui revient en Coupe d'Afrique des Nations en 2022, qui est la Guinée-Bissau. Mmh. La Guinée-Bissau, ils ont commencé avec une première participation, le sélectionneur c'était Bassirou Kandé. Ils reviennent, le sélectionneur c'est toujours Bassirou Kandé. Alors lui, effectivement, après, s'attelle à aller chercher des binationaux, des bissau-guinéens, sénégalos, bissau-guinéens, etc. Donc, il y a beaucoup de francophones actuellement dans l'équipe de Guinée-Bissau. C'est pas grave. Lui, en tout cas, il permet de faire en sorte qu'il y ait une stabilité dans le fonctionnement, dans le travail, dans la méthodologie, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, globalement, les pays préfèrent se tourner vers des techniciens nationaux, locaux, parce qu'ils sont de mieux en mieux formés, et qu'il y a aussi une mobilité maintenant. On voit aussi des techniciens africains exercer ailleurs que dans leur propre pays. Mmh. N'empêche, chez les grandes nations, il y a toujours un peu ce snobisme à aller chercher un Européen, parfois au risque de se planter. Hein. Côte d'Ivoire a choisi le Belge Wilmots.
Wilmots.
Voilà, qui n'avait absolument aucune connaissance même du football africain.
Et qui n'a pas fait beaucoup d'efforts. Et
qui n'en a pas fait beaucoup. Qui, justement, a voulu faire du binational à tout prix. Et derrière, ce qui s'est passé, eh bien, le Maroc, beaucoup plus stable, eh bien, l'a éliminé, est allé représenter l'Afrique en Russie en 2018. Et voilà, donc à un moment donné, faut pas faire n'importe quoi, faut pas bricoler, il faut surtout pas plaquer sur une équipe nationale des gens qui ne détiennent pas les clés, qui ne s'y intéressent même pas. Ça, c'est encore pire. Tu ne détiens pas les clés, mais tu peux te débrouiller pour essayer de les forger. Il y en a, ils ne s'y intéressent même pas, quoi. Ils n'essayent même pas de vivre. C'est bien, c'est renseigné.
Je voulais en venir là, moi, justement.
On parlait de Wilmots, on parlait de Wilmots, le Belge. Moi, j'ai rien contre lui, à titre personnel. Il faut savoir qu'il n'était même pas candidat. Hein. Il n'était pas candidat. On est allé le chercher. Il y avait 50 candidats.
Horrible.
51e. Voilà. Mais aujourd'hui, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, c'est un Français, Patrice Baumel. Alors, il est extrêmement critiqué parce que malheureusement, la Côte d'Ivoire a été éliminée en barrage. Enfin, avant les barrages, battue par le Cameroun et donc ça leur a coupé l'herbe sous le pied. Mais Baumel, ça fait à peu près une petite dizaine d'années qu'il travaille sur le continent africain. Il a fait de tout, des clubs, des sélections nationales. Ce n'est pas la première fois qu'il est en Côte d'Ivoire. Il était déjà l'adjoint d'Hervé Renard quand ils ont remporté la CAN
en
2015. Donc, il connaît. Lui, il a les clés. Il peut se permettre de faire les choses et il vit durablement en Côte d'Ivoire.
Justement.
Là, il est revenu en mission parce que t'as pas le choix. Mais il vit sur place. Et pour moi, ça fait toute la différence.
Justement, moi, j'avais une dernière question parce qu'il va hélas falloir que nous nous quittions. C'est une question, un espoir sur la Coupe du Monde. Moi, je voulais savoir quand est-ce que l'Afrique pourra enfin avoir sa Coupe du Monde. Alors, évidemment, il y a eu l'édition sud-africaine, mais on m'a beaucoup dit que finalement, c'était une édition un peu hors sol, que les supporters n'avaient pas pu se rendre en Afrique du Sud. Que cette Coupe du Monde, elle a été très peu africaine. Et donc, quand est-ce qu'on permettra à un pays d'avoir la chance de pouvoir organiser sa Coupe du Monde? On parle beaucoup, évidemment. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour le Maroc, qui est un pays que j'aime et qui s'est beaucoup présenté, qui a hélas toujours échoué. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, le Maroc, en s'alliant, par exemple, aux autres pays du Maghreb, ou alors plutôt avec l'Espagne. Oui, tu souris, shérif. Peut-être plutôt avec l'Espagne.
Non, bien sûr.
On en a aussi parlé, puis c'est des pays qui sont même pas frontaliers.
On va l'appeler. Alors,
pour conclure, dis-moi, shérif.
Juste un petit mot sur les grands sélectionneurs africains. Voilà. Ah. Je cherchais aussi tout à l'heure, c'était évidemment l'immense Stephen Keshi. Nigérian, qui a évidemment fait.
À son âme.
Père son âme, ouais. Moi, j'ai eu le bonheur de l'avoir au Racing Club de Strasbourg. C'est un être absolument charmant. Le footballeur, mais un être charmant.
Un homme extraordinaire qui a gagné la CAN en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Il a largement fait ses preuves. Quand on voit comment il a été traité après, c'est honteux. Voilà, c'était un hommage à Stephen Keshi.
Je te remercie de l'avoir fait.
Pour l'organisation de la Coupe du Monde, tout simplement, le Maroc était très, très compétitif en 2006. En 2006, ils ont perdu l'organisation de la Coupe du Monde en 2006. Au profit de l'Allemagne. Bon, on sait aujourd'hui que Franz Beckenbauer a pas mal bagouillé, mais enfin bon, c'est l'Allemagne, on discute pas, c'est la grande Allemagne. Le Maroc est en mesure au niveau des infrastructures. Alors maintenant, le problème, c'est que organiser la Coupe du Monde en Afrique dans un pays ou alors dans le Corne, une organisation, c'est jouable. Le problème, c'est que maintenant, il y a de plus en plus, c'est une Coupe du Monde, on va passer à 24, à 48 pays. Et là, ça pose vraiment un gros, gros problème. C'est quand on était à 24 équipes, c'est jouable. Là maintenant, avec l'augmentation quasi illimitée de participants, là il y a un problème qui se pose. Et là, quand on parle de co-organisation, c'est pas deux, c'est moi je verrais plutôt trois pays. Maintenant, l'Afrique étant ce qu'elle est, avec toujours ces dissensions régionales, parce que l'Afrique aussi c'est des régions, c'est le Maghreb, c'est l'Afrique des Grands Lacs. L'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, c'est jouable en théorie, c'est souhaitable. Après tout, même si l'Afrique du Sud, c'est un peu à part. Bon, c'est dans le sud. C'était l'hiver austral et puis que bon, ils sont plus de culture rugby. Puis en plus, ils avaient des infrastructures. Ça n'a pas été un échec. Donc, le tabou de l'inexpérience, de l'inorganisation, je pense qu'il a été levé.
J'ai tombé, ouais.
Et c'est dommage toutefois que le rendez-vous marocain ait été manqué. Je pense que dans le cadre de 24 équipes, je pense que le Maroc est en mesure de le faire. Pour la suite, comme je l'ai dit, c'est possible une co-organisation élargie et si possible avec pas les 48 pays parce que j'ai du mal à imaginer.
Exact. Ben, on va peut-être pour conclure, bien parler de la 14e Cannes féminine, parce que la Cannes, ben, c'est aussi évidemment le football féminin, et elle est prévue du 2 au 23 juillet 2022. On espère que tout se passera bien et que on pourra fêter le début juillet 2022. Moi, je voudrais évidemment vous remercier. Je voudrais remercier particulièrement Shérif pour son enthousiasme merveilleux. Il a beaucoup œuvré pour que ce numéro puisse vous être présenté. Merci à toi, Franck, aussi, évidemment, de nous avoir offert tes connaissances et ta passion. Je voudrais remercier aussi mon ami Mathieu Lemay, grand défenseur du football africain sur le continent nord-américain, et qui m'a mis le pied à l'étrier dans son podcast. Voilà, et on peut pas parler, moi, je peux pas parler de foot africain sans parler de mon copain Mathieu. Saluer tous mes amis et ma famille du continent. Enfin, je souhaiterais signaler la naissance de Ballon Rond, le nouveau magazine africain du football. C'est un mensuel qui est pour l'instant numérique et vous pouvez le découvrir sur Twitter, sur un commercial Ballon Rond FC. Évidemment, merci à vous deux encore une fois. Et pour conclure, je voudrais remercier le Cannes Football Club qui me permet de vous proposer tous ces podcasts. Merci aussi à Shérif. Je vais donner ton commercial pour qu'on puisse te retrouver sur Twitter. Un commercial G Guémour, C Guémour, pardon. Un commercial C G H E 2 M O U R et celui de Franck. Un commercial Franck. Ah, je l'ai mal écrit. Est-ce que tu peux le donner ton Twitter? Excuse-moi.
Normalement, c'est Franck Simon. Je le connais pas par cœur, mais c'est.
Moi non plus.
Honnêtement, là, tu me.
je suis vraiment désolé. Ouais. Je crois que c'est F Simon, mais il sera dans la communication.
La présentation, surtout.
Exactement. On le mettra en présentation. Sur la ligne, le podcast, il faut évidemment s'abonner pour ne louper aucun épisode. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Moi, commercial, Monsieur Foot de Foot, MR, FOOT, DEFOOT. Enfin, pour conclure, comme de tradition, je salue et j'embrasse mon fils Adrien. À bientôt!